Bienvenue à la FEB, hein, si elle est commencée depuis un moment. Alors Barrois, ministre de l'économie, a déclaré que Sarkozy aurait, je cite, œuvré pour sauver la Grèce, l'Europe et protéger les Français. Ces déclarations ne datent pas de ces derniers jours, mais du 21 juillet dernier, pour le second plan de sauvetage de la Grèce et de l'euro. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que de sauvetage, on passe à une période de panique à bord, avec de nouveau la crainte de la faillite de l'État grec et l'implosion de l'euro. Alors le 25 octobre dernier, nouveau plan de sauvetage. C'est vrai que cette fois-ci, Sarkozy a vu plus large, déclarant qu'il s'est agi de sauver non plus l'Europe, mais le monde entier. C'est toujours le même remède. Les milliards valent. Les dirigeants européens créent un fonds de 1 000 milliards d'euros pour garantir les prêts des banques aux États. Et tous de déclarer, pour une seconde fois, que l'accord est historique, alors même que tous les économistes parlent de solutions à court terme qui ne servent qu'à gagner un peu de temps avant une nouvelle crise. Il est vrai que ce nouvel accord a eu bon accueil auprès des places boursières. Dès le lendemain, la bourse s'enflammait, les valeurs des banques comme le Crédit Agricole et la Société Générale montaient en flèche, même si cela n'a pas duré. La réunion des chefs d'État du G20 vient de se terminer, comme les précédentes, par un communiqué de quelques phrases plus vagues les unes que les autres et de prétendues décisions jamais suivies des faits. Comme d'autres annonces ces dernières années, la taxation des transactions financières tombera rapidement dans les oubliettes. Mais ce qui ne tombera pas dans les oubliettes, c'est le plan d'austérité annoncé par Sarkozy pour la semaine prochaine. Depuis le déclenchement de la crise financière de 2008, c'est aux travailleurs qu'on demande de serrer la ceinture. Nos conditions de vie ne cessent de se dégrader. Aujourd'hui en France, plus de 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 954 euros par mois, et beaucoup vivent même avec moins de 600 euros. Les derniers chiffres du chômage, qu'on sait en deçà de la réalité, font état de plus de 2,8 millions de chômeurs recensés en septembre, et même plus de 4 millions si l'on compte ceux qui ont déclaré une activité réduite. Même pour ceux qui ont un salaire et un travail à temps complet, la vie devient de plus en plus difficile. Parce que tout augmente, le loyer, le gaz, l'électricité, le carburant, avec parfois des hausses allant jusqu'à 10%. Mais aucun salaire, aucune allocation, aucune retraite ne suit ce rythme effréné des augmentations. Cela n'empêche pas le gouvernement de chercher chaque jour de nouvelles mesures pour ponctionner encore un peu plus la population laborieuse. Depuis des années, il multiplie les attaques, le plus souvent sans grande publicité, pour rogner sur les dépenses concernant les plus démunis. Une des dernières décisions prises est de reporter au 1er avril 2012 l'augmentation des allocations familiales initialement prévues pour le 1er janvier prochain. Régulièrement, de nouveaux médicaments ne sont plus remboursés, de nouvelles taxes se sont créées, comme celle sur les sodas. Les idées ne leur manquent pas, et plus la crise dure, plus ils tapent fort. Ces derniers jours, la mesure jugée la plus efficace pour trouver dans la poche des travailleurs les 5 à 8 milliards qui manqueraient pour le budget 2012 serait une hausse du taux de TVA sur certains produits. Tout le monde sait que la TVA est l'impôt le plus injuste qui soit. Qu'on soit milliardaire, qu'on touche le SMIC ou le RSA, c'est le même taux pour tous. Sarkozy a déclaré qu'il n'y aurait pas de hausse généralisée de la TVA, mais une hausse du taux de 5,5% à 8, 10, voire 15% sur certains produits de première nécessité. C'est-à-dire que quoi que va décider le gouvernement, ce sera une nouvelle ponction importante sur les budgets des foyers les plus modestes. Il est également question d'instaurer une nouvelle journée de solidarité, autrement dit, une journée de travail gratuite. Quant à la politique de démolition des services publics, le gouvernement annonce qu'il va la poursuivre, qu'il va continuer à supprimer un poste sur deux des personnels partant à la retraite. Tant pis si la situation dans les hôpitaux se dégrade un peu plus encore, s'ils sont au bord de la rupture, après les milliers de postes supprimés, les milliers de lits en moins et la fermeture de services entiers. Tant pis si se soigner coûte de plus en plus cher entre les franchises à payer et les médicaments non remboursés. Tant pis si dans l'éducation, le manque de personnel enseignant et non enseignant est de plus en plus criant. à tel point que même dans les petites classes, dans les classes des plus petits, les effectifs montent à plus de 30. À tel point qu'il n'est pas rare, faute de remplaçants en nombre suffisant, qu'on laisse certaines classes sans enseignants pendant plusieurs semaines. Tant pis si les jeunes en difficulté s'installent dans les chaises et finissent par totalement rejeter l'école. Dans tous les domaines, c'est le chantage permanent au nom de la dette. On nous dit qu'il serait du devoir de chacun de contribuer à son remboursement. C'est une escroquerie. Cela fait des années et des années que tous les gouvernements, de droite comme de gauche, pratiquent un assistanat envers les grands groupes industriels. Ces groupes bénéficient chaque année de milliards d'euros au titre d'exonération de charges, de subventions directes ou de cadeaux fiscaux, tel le bouclier fiscal. C'est cela la cause réelle du déficit du budget et non l'augmentation des dépenses publiques ou de santé. C'est le manque de cotisations patronales qui creuse le trou de la sécu, pas les abus et les fraudes. Avec la crise de 2008, le phénomène a pris une plus grande ampleur encore. En 3 ans, l'État a contracté 420 milliards de dettes supplémentaires pour surmonter la crise. Mais qui en a profité? Ces milliards sont allés aux banquiers, aux industriels, aux grandes entreprises. Alors si l'État a du mal à honorer ses dettes, qu'il présente la note à ceux qui en ont profité. Ce n'est pas aux travailleurs de payer, mais à ceux qui ont de l'argent, à la bourgeoisie, seule responsable de la dette. Dans cette période de crise économique, de récession annoncée, le patronat veut maintenir coûte que coûte ses profits et les dividendes des actionnaires. Pour compenser ses pertes, il aggrave l'exploitation en usant de 3 leviers. L'augmentation des cadences, la baisse de la masse salariale et les licenciements. Les restructurations sont légion, avec pour conséquence cette situation révoltante où l'on voit de plus en plus de travailleurs se tuer à la tâche, pendant que d'autres se retrouvent sans emploi. Voyez ce qui se passe chez Anovo à Brive, entreprise spécialisée dans l'entretien et la maintenance de matériel électronique. Après un chiffre d'affaires en constante augmentation jusqu'au premier semestre 2011, elle a déclaré en juin dernier avoir plusieurs millions de dettes. Où sont passés les 40 millions de bénéfices des 5 dernières années? Et les centaines de milliers d'euros de subventions reçues sur la même période. L'entreprise va être rachetée et mise sous la coupe d'un fonds de pension. Celui-ci, spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté, prévoit 1 millier de licenciements, dont 150 sur les 375 que compte l'usine de Brive. Il est à parier qu'il va faire le même travail qu'avant par les travailleurs qui restent, remettre ainsi l'entreprise à flot, pour la revendre rapidement et empocher un beau pactole sur le dos des travailleurs. Que les entreprises affichent des bénéfices, voire des bénéfices records, ne change rien. Le groupe industriel Montupé, qui a fait des bénéfices records au premier trimestre 2011, a littéralement déclaré la guerre aux travailleurs de la fonderie d'Ingrande, près de Châtellerault dans la Vienne, en leur demandant d'accepter un plan de compétitivité qui aurait entraîné des pertes de salaire pouvant aller jusqu'à 25%. Mais pourquoi demander les sacrifices aux travailleurs? Pourquoi ne pas proposer une baisse de 25% des marges bénéficiaires ou de baisser de 25% les dividendes des actionnaires? Les salariés de la fonderie ne se sont pas laissés faire, ils ont répondu par une grève de plus de 2 mois. À ce jour, la grève est terminée, mais certainement pas la lutte. Voici 2 jours, ce sont les 1650 travailleurs du journal d'annonce paru vendu qui apprenaient qu'ils étaient jetés à la rue, alors que le groupe Hersan, leur propriétaire, dispose de moyens financiers considérables. 27 titres de presse, 2 chaînes de télévision, 7 stations de radio. C'est aussi la banque BNP Paribas qui réalise des profits faramineux, qui vient d'annoncer plusieurs centaines de licenciements, ce qui a immédiatement entraîné une hausse des actions Paribas, les actionnaires étant alléchés par les futurs profits que ces suppressions d'emplois leur font espérer. Et avant, c'était le groupe PSA Peugeot qui avait annoncé un plan de suppression de 6800 emplois, dont la fin de mission de 800 intérimaires. Il ne lui a pas suffi de battre un record de vente en 2010, de faire plus d'un milliard de bénéfices. Il ne lui a pas suffi d'enrichir la famille Peugeot de 2 millions supplémentaires chaque jour, alors que son PDG s'est vanté de présenter un chiffre d'affaires en hausse de 3,5% et de disposer de 11 milliards d'euros de liquidités dans les caisses, la direction a décidé d'anticiper une éventuelle baisse d'activité. L'argent est là, le travail est là, mais il faut remplir encore plus les caisses pour maintenir les marges et les profits si le marché devait devenir moins favorable. Tant pis si cela jette des milliers de travailleurs et leurs familles dans la misère. À cela, il faut ajouter les conséquences pour toutes les entreprises de sous-traitance qui dépendent de Peugeot, pour tous les travailleurs qui lui sont liés, ceux qui assurent la restauration, le nettoyage des bâtiments ou encore la sécurité. Des licenciements comme à Peugeot, il s'en produit chaque jour dans tout le pays, dans de petites, de moyennes ou de grandes entreprises. Des tentatives pour baisser nos salaires, comme chez Montupé, c'est peut-être un avant-goût de ce que nous préparent les patrons pour demain ou après-demain. Dans le contexte de crise, les capitalistes même mènent une lutte de classe sans merci pour maintenir leurs profits. La seule façon d'arrêter les coûts, c'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Ce n'est pas la peine d'attendre le sauveur suprême, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont toujours arraché au patronat par leur lutte, par leur grève, par leur manifestation. Car comment croire que les gouvernements peuvent maîtriser quoi que ce soit dans la situation actuelle ? Les réunions de chefs d'État, de ministres des Finances peuvent se multiplier, durer des nuits entières, cela ne changera rien. Une semaine après le plan de sauvetage de juillet, la Grèce voyait l'agence Moody's dégrader sa note. Trois jours après le dernier sommet européen censé protéger l'Italie, les taux d'intérêt des prêts pour ce pays montaient et continuent de monter, preuve que la confiance n'était aucunement rétablie. Et la simple annonce d'un référendum en Grèce a fait décrocher les bourses et fait baisser un peu plus les cours des banques. Pourtant, il n'était pas question pour Papandréou de poser la seule question concrète digne d'intérêt au peuple grec. Voulez-vous tous, ouvriers, employés, chômeurs, retraités, payer les intérêts usuraires aux banques pour des prêts dont vous n'avez pas vu la couleur? Pour le duo Merkel-Sarkozy, le gouvernement grec se doit de mettre en œuvre les mesures d'austérité sans rechigner, et même sans avoir l'air de rechigner, et le peuple grec se doit de subir et de se taire. Eh bien nous, notre solidarité va entièrement au peuple grec. Tous les experts, prix Nobel d'économie et autres sommités payés à coups de millions pour trouver des solutions, sont impuissants à sortir le système de la crise et de la spéculation qui le ronge. Mais s'ils ne trouvent pas de solution, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre solution pour se débarrasser des crises du système capitaliste que de se débarrasser du système capitalisme lui-même. C'est du cinéma que de faire croire que notre avenir dépendrait du fameux triple A donné par l'agence Moody's. Parce qu'on vit dans un système totalement irrationnel, où il est vain de chercher à faire quelques prévisions que ce soit, tant chaque jour, la moindre rumeur, le moindre mouvement des uns peut déclencher une véritable tempête boursière et plonger les gagnants de la veille dans la faillite. Comment faire croire que les plans d'austérité, c'est-à-dire l'appauvrissement de la population, qu'on nous présente comme indispensable pour conserver le triple A, pourrait désamorcer la crise et relancer la consommation? Il n'y a qu'à regarder l'exemple de la Grèce, ou plan de rigueur appelerait plan de rigueur, la population plonge chaque jour un peu plus dans la misère et le pays dans le gouffre de la dette. Il n'y a pas de solution à la crise. Dans un système basé uniquement sur la recherche du profit individuel ou du chacun pour soi, elle ne peut que s'amplifier. Mais si les travailleurs ne peuvent rien contre la crise, ils peuvent et doivent se défendre contre ses conséquences. Il faut qu'ils protègent leur seul moyen d'existence, à savoir leur emploi et leur salaire. Mais ce n'est pas avec des bulletins de vote, même ceux de l'élection présidentielle de 2012, qu'ils pourront le faire. D'ailleurs, Hollande, le candidat du Parti socialiste, ne prend même pas le risque de décevoir par des promesses tombées aux oubliettes une fois élu, vu qu'il n'en fait aucune. Après des heures de débat dans le cadre des primaires, pas un mot concret sur les salaires, ni sur les retraites. Pas une proposition pour s'opposer aux fermetures d'usines et aux licenciements. Tout au plus, a-t-il défendu la création de 60 000 emplois dans l'éducation nationale et le contrat de génération. Au lendemain de son investiture comme candidat officiel du Parti socialiste, Sapin, un de ses proches, s'est empressé de préciser que les créations de postes dans l'éducation nationale se feraient au détriment d'autres services publics et qu'il n'était pas question d'augmenter la masse salariale du budget de l'État. Cette semaine, devant les critiques de la droite, Hollande a fait une nouvelle pirouette en déclarant que sa mesure ne sera peut-être pas réalisable car il n'y aurait pas assez de jeunes volontaires pour faire le métier d'enseignant. Quant au contrat de génération, il s'agit pour un employeur qui s'engagerait à garder un travailleur jusqu'à la retraite en même temps qu'il embaucherait un jeune de moins de 25 ans, d'être dispensé pendant 3 ans de cotisations sociales sur les 2 emplois. Autrement dit, il s'agit ni plus ni moins d'une nouvelle mesure de subvention directe au patronat. Les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour inverser le rapport de force avec le patronat. Tous les candidats des grands partis ont pour point commun de ne pas contester la domination capitaliste sur l'économie. Tous n'ont de cesse de montrer qu'ils seront responsables, qu'ils s'engageront à trouver tous les moyens de rembourser la dette. Tous sont d'accord sur le fait qu'il faudra que ce soit les travailleurs qui paient, se serrent la ceinture et acceptent des mesures d'austérité. Pour eux, il n'y aurait pas d'autre choix. Mais les travailleurs ne doivent pas se laisser impressionner par les problèmes des banques, de la dette et de l'euro. Le problème pour les mois à venir n'est pas de choisir parmi les décisions de la bourgeoisie laquelle permettra d'éviter la débâcle. Les gouvernements n'ont aucun moyen de s'opposer à la crise. Tout au plus peuvent-ils repousser les échéances, gagner du temps. Mais les mesures qu'ils prennent ne font que créer les conditions de nouveaux soubresauts financiers, car les centaines de milliards qu'ils injectent finissent toujours dans les circuits de la spéculation. Le seul choix des travailleurs est de refuser les sacrifices qu'on leur demande et de mener la lutte de manière aussi résolue que le patronat. La seule façon d'arrêter les coups portés aux travailleurs, c'est une explosion sociale où des millions de travailleurs se mettront en mouvement et feront craindre aux capitalistes de tout perdre. Cette explosion sociale est inévitable, car l'avidité des plus riches et le cynisme de leurs serviteurs politiques sont sans limite. C'est eux qui finiront par la provoquer. Nous ne pouvons évidemment pas prévoir quand et comment elle se produira, mais elle aura forcément lieu. Que nous croyons ou pas aujourd'hui dans la capacité des travailleurs à se mettre en lutte n'y change rien. Il y aura un moment où nous n'aurons plus le choix, où il faudra sauver notre peau. Il faudra alors que les travailleurs soient prêts. C'est dès maintenant qu'il faut discuter des objectifs à donner à la lutte, des revendications qui pourraient unir tous les travailleurs, par-delà les branches professionnelles, par-delà les catégories. Des revendications dans lesquelles pourraient aussi se reconnaître les travailleurs au chômage, les retraités, les jeunes dans la précarité. Il faut être prêt politiquement. savoir quelle route emprunter pour renforcer la lutte et véritablement prendre le mal à la racine, s'attaquer au capitalisme. Il faut être prêt pour ne pas se laisser leurrer par tous les bonimenteurs qui tenteront inévitablement de détourner la lutte vers des voies de garage. Il est vital d'affirmer clairement que si les travailleurs ne veulent pas payer les dégâts d'une crise qui n'est pas la leur, il faut contraindre les exploiteurs à payer. C'est eux ou nous. Populariser aujourd'hui un programme de lutte, ce sera le meilleur moyen de s'y préparer. Face à l'incapacité de la bourgeoisie de mettre fin à la crise, il faut imposer l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Comment ? On pourra commencer dans bien des entreprises par embaucher les intérimaires, baisser les cadences de travail, ajouter des temps de pause et diminuer les horaires de chacun. On pourra aussi créer les postes nécessaires dans les services publics. Oui, ça coûtera de l'argent, mais de l'argent, les capitalistes en ont. Face à ceux qui objecteront que cela ruinerait les entreprises dans le contexte de compétition internationale, nous répondons qu'ils rendent public leurs comptes. Il faut lever le secret industriel, commercial et bancaire. Et pour commencer, il faut que tous ceux qui ont des informations sur le fonctionnement réel de tous ces groupes industriels et financiers, sur ce qui se passe dans l'ombre, puissent légalement le rendre public. Les travailleurs et la population doivent avoir les moyens de savoir où passe véritablement l'argent, quelles sont les marges bénéficiaires, quelles sommes sont distribuées en bonus et autres dividendes, quelles sommes partent vers la spéculation. Un véritable contrôle ne peut venir que du bas. On verrait que les capitalistes ont non seulement de quoi assumer l'emploi de tous les travailleurs, mais qu'ils ont même de quoi augmenter les salaires. Face aux hausses de prix et à la chute du pouvoir d'achat qu'elles entraînent, il faut imposer que les salaires, les pensions et les allocations suivent automatiquement et sans retard les hausses de prix, c'est-à-dire qu'il faut imposer l'échelle mobile des salaires et des pensions. Qui ont une responsabilité écrasante dans la crise que nous subissons, il faut les empêcher de nuire. Certains évoquent la nécessité de recourir aux nationalisations. Nous ne sommes pas d'accord avec cela, car c'est en fait un moyen détourné de sauver les fortunes de leurs actionnaires. Les banques sont rachetées au prix fort, sont remises d'aplomb sur le dos de la population et au final sont reprivatisées quand les comptes sont revenus au vert. Nous sommes, nous, pour l'expropriation, sans indemnité ni rachat, car on ne doit rien aux banquiers. Il faut fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner au service de la population et sous son contrôle. Ces revendications sont des objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Bien sûr qu'ils ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes massives, déterminées, mobilisant la majorité du monde du travail, mais c'est la seule issue. C'est ce programme, un programme de lutte, que défend notre camarade Nathalie Arthaud en présentant sa candidature à l'élection présidentielle. On sait qu'il ne faut rien attendre des élections, pas plus de celles des présidentielles qui arrivent, que de toutes les autres. Nous gardons nos convictions communistes. Nous restons convaincus que l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation et des inégalités, mais plutôt celui d'une société organisée sur d'autres bases, en fonction des besoins et des capacités de la société tout entière. La transformation de la société n'est évidemment pas l'enjeu de la prochaine élection présidentielle, mais elle sera l'occasion d'armer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Elle nous offre la possibilité de défendre nos idées à une échelle bien plus large que nos activités militantes habituelles. Nous devons profiter de cette période électorale pour faire connaître autour de nous le programme de lutte défendu par Nathalie Arthaud. pour aller à contre-courant du matraquage médiatique et politique qui tentera de nous faire accepter de nouveaux coups. Alors nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour propager ces idées autour de vous, dans vos familles, auprès de vos amis, de vos voisins, dans vos quartiers, autrement dit, de nous aider dans cette campagne. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement nos idées et à les populariser, ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, dans les entreprises, dans la rue et en tout cas dans les luttes.